c'était pire. Ellerton nous fit passer des photos, des clichés en noir et blanc sans concession qui m'évoquèrent ceux de Ouija et de Diane Arbus. Bobby G lut un hoquet et détourna les yeux. Deke émit un grognement étouffé comme s'il avait pris un coup. Miss Ellie les examina l'une après l'autre, stoïquement, mais à part les deux boules rouges de ses pommettes enflammées, son visage était décoloré. Sur les deux premières, la joue de Sadie pendait en deux lambeaux de chair déchiquetée. Ça, je l'avais déjà vu le mercredi soir, donc j'y étais préparé. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était au pli retombant de sa bouche qui la faisait ressembler à une victime d'AVC, ni à la poche de chair molle au-dessous de son œil gauche. Ça lui donnait une apparence clownesque qui m'a donné envie de me taper la tête contre la table de la petite salle de conférence dans laquelle le médecin nous recevait. Ou peut-être, ça aurait été mieux, de me précipiter à la morgue où Johnny Clayton était couché pour lui mettre une raclée supplémentaire. « Lorsque les parents de cette jeune femme arriveront ce soir, » nous dit Ellerton, « je ferai preuve de tact et je leur donnerai de l'espoir, car les parents méritent tact et espoir. » Il fronça les sourcils. « Quoique, nous pensions qu'il serait arrivé plus tôt, compte tenu de la gravité de l'état de Mrs. Clayton, s'il... »« Miss Dunhill !» corrigea Ellie avec une calme fureur. « Elle était légalement divorcée de ce monstre !»« Oui, tout à fait, merci de me corriger. Quoi qu'il en soit, vous êtes ses amis. Et en tant que tel, je pense que vous méritez moins de tact et plus de vérité. » Il considéra l'un des clichés d'un regard neutre et tapota d'un ongle propre et coupé court la joue déchirée de Sadie. « Ceci pourra être amélioré, mais jamais effacé. Pas avec les techniques dont je dispose aujourd'hui. Peut-être dans un an, lorsque les tissus se seront complètement ressoudés, serai-je en mesure de rectifier le plus gros de la dissymétrie. » Des larmes se mirent à couler sur les joues de Bobby Jill. Elle prit la main de Mike. « Le préjudice esthétique est en soi très regrettable, » poursuivit Ellerton. Mais il y a également d'autres problèmes. Le nerf facial a été sectionné. Elle aura des difficultés à manger avec le côté gauche de sa bouche. L'affaissement de l'œil que vous voyez sur ces photographies ne pourra être corrigé. Elle le gardera, hélas, toute sa vie. Et le canal lacrymal aussi a été partiellement sectionné. Sa vue n'en sera probablement pas affectée. Espérons-le. Il soupira et ouvrit les mains. Avec la promesse de technologies merveilleuses telles que la microchirurgie et la régénération des tissus nerveux, nous serons certainement capables de faire beaucoup mieux dans des cas semblables dans 20 ou 30 ans. Pour l'instant, tout ce que je peux dire, c'est que je ferai de mon mieux pour réparer les préjudices actuellement réparables. Mike ouvrit la bouche pour la première fois. Il avait un ton amer. Dommage qu'on soit pas en 1990, hein ? Ce fut un petit groupe silencieux et découragé qui quitta l'hôpital cet après-midi-là. Sur le parking, Miss Ellie me toucha le bras. « J'aurais dû vous écouter, George. Je suis affreusement désolé. » « Je ne suis pas sûr que cela aurait beaucoup changé les choses, » je lui ai dit. « Mais si vous voulez vous racheter... » « Demandez à Freddie Quinlan de m'appeler. C'est l'agent immobilier qui s'est occupé de moi quand je suis arrivé à Jody. Je vais être auprès de Sadie cet été, ce qui signifie que j'ai besoin d'une nouvelle maison à louer. »«
Vous pouvez venir habiter chez moi ?» offrit Deke. « J'ai beaucoup de place. »
Je me suis tourné vers lui. « Vous en êtes sûr ?
Vous me feriez une faveur en acceptant. Je serais heureux de vous payer. »
Il m'interrompit d'un geste.
« Ah, vous n'aurez qu'à participer à l'intendance. Ce sera très bien. »
Ellie et lui étaient venus ensemble dans le break ranch de Deke. Je les ai regardés s'éloigner, puis je me suis traîné d'un pas lourd jusqu'à ma Chevrolet qui m'apparaissait maintenant, sans doute injustement, comme porteuse de malchance. Jamais je n'avais eu moins envie de retourner à West Nili, où je n'allais pas manquer d'entendre Lee passer sur Marina sa frustration d'avoir manqué le général Walker. « Monsieur A ?» C'était Mike. Bobby Jill se tenait quelques pas derrière lui, les bras étroitement serrés autour de son buste, en dessous des seins. Elle avait l'air malheureuse et glacée. « Oui, Mike ?»« Qui va payer la facture d'hôpital de Miss Dunhill ?» Et toutes ces opérations chirurgicales dont il a parlé? A-t-elle une assurance? Partielle, oui. Mais loin d'être suffisante pour financer quelque chose d'aussi important. J'ai pensé à ses parents, mais le fait qu'ils ne se soient pas encore manifestés était troublant. Il ne pouvait quand même pas lui reprocher ce que Clayton avait fait. Si. Je ne voyais pas comment une chose pareille était possible. Mais je venais d'un monde où les femmes étaient en grande partie traitées comme des égales. Jamais plus qu'à ce moment, 1963 ne m'est apparu comme un pays étranger. « Je l'aiderai autant que je pourrai », je lui ai dit. Mais à combien cela se montrait-il? Mes réserves de liquidité étaient encore assez conséquentes pour me permettre de tenir le coup quelques mois, mais pas assez pour payer plusieurs interventions de reconstruction faciale. Je n'avais pas envie de retourner chez Faith Financial dans Greenville Avenue, mais je supposais que s'il le fallait, je m'y résoudrais. Le derby du Kentucky aurait lieu dans moins d'un mois, et si j'en croyais la section bookmaker des notes de Hall, le vainqueur serait Châteauguay, un pari risqué. Un simple pari de 1000 pourrait rapporter de 7 à 8 fois plus, assez pour prendre en charge le séjour à l'hôpital de Sadie et... au tarif de 1963, au moins une partie des opérations successives. « J'ai une idée !» me dit Mike. Puis il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Bobby Jill lui adressa un sourire encourageant. « En fait, c'est moi et Bobby Jill qu'on l'a eu. »« Bobby Jill et moi, Mike, qui l'avons eu. » Tu n'es plus un enfant, alors cesse de parler comme un enfant. Oui, oui, bien sûr, désolé. Si vous pouvez nous accompagner 10 minutes à la cafétéria, nous allons vous l'exposer. J'y suis allé. Nous avons bu un café, j'ai écouté leur idée, et je suis tombé d'accord. Parfois, quand le passé s'harmonise avec lui-même, le sage n'a plus qu'à se racler la gorge et à chanter à l'unisson. Il y eut une prise de bec mémorable dans l'appartement du dessus ce soir-là. La petite June ajouta son grain de sel en hurlant à se décrocher la mâchoire. Je ne me suis pas donné la peine d'écouter. Les hurlements étaient pour la plupart en russe de toute façon. Puis, autour de 20 heures, un silence inaccoutumé est tombé. J'ai supposé qu'ils étaient allés se coucher au moins 2 heures plus tôt que d'habitude, et ça a été un soulagement. Je projetais d'aller me coucher aussi quand la Cadillac paquebot de Morenchild se rangea le long du trottoir. Jane en descendit souplement. George en bondit avec son élan coutumier de diable sortant de sa boîte. Il ouvrit la portière arrière, côté conducteur, et en tira un lapin en peluche d'une invraisemblable couleur violette. J'assistais bouche bée à ce débarquement par la fente de mes rideaux, avant de comprendre subitement. Demain, c'était le dimanche de Pâques. Ils se dirigèrent vers l'escalier extérieur. Jane marchant, George la précédant au trot. Le martèlement de ses pas heurtant les marches délabrées fit trembler tout le bâtiment. J'entendis des voix surprises au-dessus de ma tête, étouffées mais exprimant clairement l'interrogation. Des pas précipités traversèrent mon salon, faisant osciller le mince plafonnier de ma salle de séjour. Les Oswald pensaient-ils que c'était la police de Dallas venant procéder à une arrestation? Ou peut-être l'un des agents du FBI qui avait eu Lee à l'œil lorsqu'il vivait avec sa famille dans Mercedes Street? J'espérais que le cœur de ce petit bâtard lui était remonté bien haut dans la gorge et l'étouffait. Une volée de coups retentit à la porte en haut de l'escalier, Et Morenchild cria jovialement.
« Ouvre, Lee ! Ouvre, espèce des païens !»
La porte s'est ouverte. Moi, j'ai coiffé mes écouteurs, mais je n'ai rien entendu. Puis, au moment où j'allais décider d'essayer le micro Tupperware, l'un d'eux a allumé la lampe trafiquée. Elle fonctionnait à nouveau, du moins pour le moment.
« Pour le bébé !»
dit Jane.
« Oh, merci !»
répondit Marina.
« Merci très beaucoup, Jane. Ça très gentil.
Ne reste pas planté là, camarade. Offre-nous quelque chose à boire !»
lança Morenchild. Il paraissait s'être déjà sifflé quelques verres.
« Je n'ai que du thé, »
dit Lee. Il avait la voix ronchonne et mal réveillée.
« Du thé ? C'est parfait ! J'ai quelque chose dans ma poche qui le corsera un peu !»
J'ai presque perçu le clin d'œil dans sa voix. Marina et Jane passèrent aux Russes. Lee et Morenchild, je les identifiais à leurs pas plus lourds, se dirigeaient vers le coin cuisine où je savais que je les perdrais. Les voix des femmes, debout près de la lampe, couvriraient la conversation des hommes. Soudain, Jane s'exclama en anglais.
« Oh mon Dieu, c'est un fusil que vous avez là ?»
Tout s'arrêta, y compris mon cœur, me sembla-t-il. Marina rit. Un petit rire argentin de cocktail party.
«
Artificiel en diable.
« Il perd travail. Nous pas avoir argent, et ce personne fou achète fusil. Je dis, range dans placard. « Toi, fou idiot, pour pas déranger mon grossesse !»«
Je voulais faire un peu de tir à la cible, c'est tout. »
se défendit Lee.
« J'étais plutôt bon dans les Marines. J'ai pas décroché une seule fois la culotte de Maggie. J'ai pas une seule fois raté ma cible. »
Il y eut un autre silence, qui sembla durer éternellement. Puis le grand rire cordial de Morenchild explosa.
Allons donc, paratine pas un baratineur. Comment t'as fait pour le louper, Lee?
Je sais foutre pas de quoi tu parles.
Le général Walker, mon garçon. Quelqu'un a failli repeindre les murs de son bureau dans sa maison de Turtle Creek avec sa cervelle de pourfendeur de nègre. Tu veux dire que t'étais pas au courant?
J'ai pas lu les journaux ces temps-ci.
Ah,
dit Jane.
« Ce n'est pas le Times Herald que je vois là sur ce tabouret ?»«
Je veux dire que je lis pas les nouvelles, trop déprimant. Juste les bandes dessinées et les petites annonces. Big Brother a dit « Trouve-toi un emploi ou le bébé meurt de faim. »«
Allô, comme ça ? C'est pas toi qui as fait ce carton ?»
s'étonna Morenchild. Il le taquinait, essayait de le faire mordre à l'hameçon. La question était de savoir pourquoi. Parce que Morenchild, même dans ses rêves les plus fous, n'aurait jamais imaginé qu'un blanc-bec comme Ozzy Lapin puisse être ce tireur du mercredi soir? Ou parce qu'il savait que Lee l'était? Ou simplement parce que Jane avait remarqué le fusil? J'ai regretté amèrement que les femmes soient là. Si la chance m'avait été donnée d'écouter Lee et son singulier amigo parler d'homme à homme, mes questions auraient peut-être trouvé des réponses. En l'état, je ne pouvais être sûr de rien.
Tu crois que je serais assez fou pour tirer sur quelqu'un avec J. Edgar Hoover en train de regarder par-dessus mon épaule ?
Lee semblait chercher à se mettre dans l'ambiance, style le temps des copains, plutôt que la machine à chanter, mais il ne s'en sortait pas très bien.
Personne ne pense que vous avez tiré sur qui que ce soit, Lee,
dit Jane d'une voix apaisante.
Promettez-moi juste que lorsque votre bébé commencera à marcher, vous trouverez un endroit plus sûr que votre armoire pour ranger ce fusil.
Marina lui répondit en russe. Mais comme j'avais déjà aperçu le bébé dans le jardin, j'ai su ce qu'elle lui disait. Que June marchait déjà.
June sera contente de votre joli cadeau,
dit Lee.
Mais nous ne fêtons pas Pâques. Nous sommes athées.
Peut-être l'était-il, mais Marina, d'après les notes de Hall, avec l'aide de son admirateur George Bowie, avait fait secrètement baptiser June à peu près à l'époque de la crise des missiles.
« Nous aussi !»
dit Morenchild.
« C'est pourquoi nous célébrons les lapins de Pâques !»
Il s'était rapproché de la lampe et son rire tonitruant faillit m'assourdir. Ils parlèrent pendant encore une dizaine de minutes en mélangeant l'anglais et le russe. Puis Jane dit
« Nous allons vous laisser en paix maintenant. Je crois que nous vous avons sorti du lit. »« Non, non, nous étions debout, »
répondit Lee.
« Merci d'être passé. »
George reprit
« Nous reparlerons bientôt, Lee, hein ?» Tu peux venir au country club. Nous organiserons les serveurs en collectif. Oui, oui, bien sûr.
Il se dirigeait maintenant vers la porte. Morenchild dit autre chose, mais le son était trop faible pour que je saisisse plus que quelques mots. Ça aurait pu être « Quand l'as-tu retiré de l'impasse ?» ou « Je te tirerai de la nasse ?» Encore que j'ignore si Morenchild connaissait ce genre de formule argotique. « Quand l'as-tu sorti de l'impasse » Était-ce ce qu'il avait dit? Autrement dit, « Quand as-tu récupéré le fusil ?» Je me suis repassé la bande une bonne douzaine de fois. Mais à cette vitesse super lente, c'était tout bonnement impossible de trancher. Je suis resté éveillé dans mon lit longtemps après que les Oswald se furent endormis. Et j'étais encore éveillé à 2 heures du matin quand June a pleuré un petit moment et que sa mère l'a bercée pour la renvoyer au pays des rêves. J'ai pensé à Sadie, qui dormait du sommeil agité de la morphine à l'hôpital Parkland. Sa chambre était laide et son lit étroit, mais là-bas j'aurais pu dormir, j'en étais sûr. J'ai pensé à Morenchild, cet histrion délirant se dépoitraillant en public. Qu'est-ce que tu lui as dit, George? Qu'est-ce que tu lui as dit à la fin? Était-ce « Quand l'as-tu retiré de l'impasse » Était-ce « Tu as tiré, mais il n'y a pas eu de casse » Était-ce « Tu aurais pu mieux t'en tirer pour un ancien bidasse » Ou tout autre chose? Enfin, j'ai dormi. J'ai rêvé que j'étais à une fête foraine avec Sadie. Nous arrivions devant un stand de tir où se tenait Lee, son fusil calé au creux de l'épaule. Le gars qui tenait le stand était George de Morenchild. Lee tirait 3 fois et ratait toutes les cibles.
« Ah, désolé, mon fils !» lui disait Morenchild. « Pas de l'eau cagnant pour les gars qui décrochent la culotte de Maggie !»
Puis il se tournait vers moi et me souriait.
« Approchez, approchez, mon fils. Vous aurez peut-être plus de chance. Quelqu'un va tuer le président. Pourquoi pas fou ?»
Je me suis réveillé en sursaut dans la première lueur blafarde du jour. Au-dessus de moi, les Oswald dormaient toujours.